Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de cette tribune de la presse. D'abord, le président de la CENI affirme que les contraintes techniques, notamment la révision du fichier électoral, ne permettront pas à la CENI d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pour cela, Corneille Nangaa annonce que la CENI va introduire une requête à la Cour constitutionnelle pour obtenir une petite extension qui, dit-il, ne sera pas éternelle. Ensuite, nous parlerons de Jean-Pierre Bemba qui est reconnu coupable en tant que chef militaire de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par des rebelles du MLC en Centrafrique en 2002 et 2003. C'est le verdict, vous le savez, rendu lundi dernier dans l'affaire qu'il oppose au procureur de la CPI. Pour en parler, je reçois Marcel Ngoing, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Monsieur l'éditeur, bonsoir.
Bonsoir, Arlindo.
Joachim Diana Gikoupa, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Ça, monsieur l'éditeur, bonsoir également.
Bonsoir, confrère.
Charles Mukendi, directeur des programmes de Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée émettant à Mbujima et au Kassai-Oriental. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, confrère.
Merci de nous recevoir chez vous. Plusieurs sujets ont fait l'actualité cette semaine. Suivons cette revue de presse que nous présente Kéline Côté.
Bonsoir. Le procès Jean-Pierre Bemba à la CPI défraye la chronique. Et pour ouvrir le bal, le quotidien L'Avenir titre à la une. Reconnu coupable, Bemba attend sa peine. D'après le journal, l'ancien vice-président de la République a été reconnu coupable par la CPI des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de l'opération menée en République centrafricaine entre 2002 et 2003 par un contingent du MLC. Toutefois, explique le confrère, la CPI décidera de la procédure à suivre pour fixer la peine après avoir entendu les parties et les représentants légaux des victimes. De son côté, le tabloïd Forum des As signe aux manchettes accusé des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. CPI, Jean-Pierre Bemba déclaré coupable. Dans la même veine, pratiquement, le journal La Prospérité titre CPI, Bemba reste en prison. En poussant cette trompette, le quotidien Le Phare se veut tranchant. Bemba, c'est fini. Le mince espoir de voir Jean-Pierre Bemba acquitté par la Cour pénale internationale s'est envolé, rapporte le confrère. La grande explosion des joies attendues des milliers de cadres et militants du MLC disséminés dans le pays et dans d'autres parties du monde s'est transformée en amère déception, conclut le tabloïd. Changeons de chapitre pour parler élections. Le journal La Prospérité annonce à la une blocage du processus électoral, RDC, la CENI sont remis à la Cour constitutionnelle. Incapable d'organiser les élections en 2016, explique la consoeur, la CENI, qui évoque des raisons techniques, va saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter une prolongation au-delà du délai constitutionnel. Forum des As, pour sa part, qui n'y va pas par le dos de la cuillère au titre processus électoral, la CENI demande un glissement à la Cour constitutionnelle.
Merci, Kéline Côté. Marcel Ngoï, vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité, il faut signaler le début mardi dernier de la campagne pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à travers les provinces démembrées de la RDC. Certains candidats, voire certains électeurs, dénoncent des intimidations, des menaces à leur encontre de la part de certains cadres de la majorité présidentielle. Comment vous avez analysé cette actualité?
Bon, il faut avouer que cette élection intervient ce samedi, dans les conditions telles que la CENI a voulu la préparer. Et c'est une élection qui vient pratiquement corriger un peu cette histoire des commissaires spéciaux qui avaient été nommés dans les conditions d'une forte contestation soulevée par l'arrêt de la Cour par rapport aux mesures exceptionnelles qu'il fallait prendre. Donc ce qui est important ici, c'est de dire si on peut corriger ça et que les couves en question viennent faire quelque chose, mais la difficulté c'est de savoir pendant combien de temps ces gouverneurs seront là, parce qu'en principe, si on avait organisé les élections provinciales, ce sont les nouveaux députés provinciaux qui auraient pu élire, renouveler le Sénat et pour un mandat de 5 ans, mais ceux-ci qui sont nommés, ou pardon, qui seront élus, et on ne sait pas combien de temps ils vont faire, c'est comme aussi les commissaires spéciaux, qui n'ont pas duré.
Et donc, il faut tout faire pour normaliser le cycle électoral.
Donc, en principe, il faut mettre fin au cercle vicieux, à cette histoire d'intérimaire. On a démembré à la hussarde le pays, et en créant des provinces qui n'ont pas, dont les moyens ne sont pas là pour les installer. Et puis, on vient ajouter la nomination en lieu place d'élection. On nomme les commissaires spéciaux. Maintenant, les commissaires spéciaux n'ont pas duré. on va élire des députés pour le nouveau gouverneur, pas des députés provinciaux hors mandat.
Donc, on est dans un cycle infernal, comme vous le dites. Joachim Diana Gikoupa, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Votre commentaire sur le même sujet, Marcel Ngoy, insiste sur le fait qu'il faudrait qu'on cesse avec le régime des intérimaires.
Oui, tout à fait. Vous savez que nous sommes une démocratie curieuse. Il n'y a pas que les députés provinciaux qui sont des intérimaires, mais nous avons tous les cadres à la base. Les chefs de secteur, nous avons le bourgmestre, nous avons les administrateurs des territoires, tous ils sont encore nommés. Nous sommes une démocratie au sommet et il y a des gens qui voudraient que l'on continue comme cela. Vous avez parlé des menaces, mais moi je pense que les acteurs politiques doivent cesser de dramatiser certaines situations. Vous savez que parfois, des menaces, pas des menaces comme telles, mais
des mots d'ordre.
Des querelles. Mais les mots d'ordre, c'est tout à fait normal que moi je
Ça fait partie du jeu politique.
Tout à fait. Lorsque vous avez l'opposition, et l'opposition n'est pas totalement réunie pour avoir une seule personne, un porte-parole, tel que c'est prévu dans la Constitution, qui peut réunir tous les opposants pour leur dire voici notre ligne de conduite pour ces élections. Mais ils ne doivent pas en faire un problème lorsque le camp en face d'eux qui est uni réunit ces gens pour dire qu'à ces élections nous voulons obtenir tel résultat et voilà ce que nous attendons de vous comme comportement. Là, je pense que c'est tout à fait normal. Quant aux querelles, nous suivons aux États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie du monde. Vous avez entendu, monsieur là, le xénophobe là, on l'a même attaqué. Donc c'est ça, ça fait le jeu politique, sauf que si les jours des élections, que les élections soient transparente, libre et démocratique.
Charles Mukendi, directeur des programmes de Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée émettant à Mbujimayi au Kasaï-Oriental. Charles, comment vous vivez cette campagne électorale avant l'élection proprement dite le samedi?
La campagne électorale, elle semble un peu trop courte et puis c'est comme si elle concernait les députés et les candidats gouverneurs. Certes, dans la salle, quand on est allé voir pendant la campagne, donc les présentations des différents programmes, on a vu que chacun s'est essayé de s'accompagner déjà, mais ce n'est pas l'affaire de la population parce qu'on ne parle pas d'avenir de la soumission. Cette affaire-là, c'est l'impact voulu.
Charles,
je considère Charles. Deux, trois jours seulement pour une campagne. Et c'est pas intéressant. Oui, allô,
voilà, si c'est possible de bouger un tout petit peu, car la qualité de votre ligne est en train de se dégrader. Entre-temps, à part l'élection des gouverneurs, Charles Mukendi, qu'est-ce qui fait l'actualité en Mbujimayi où vous vous trouvez?
Il y a aussi quelques maisons qui se sont effondrées. Il y a de cela, quelques jours, avec des grosses pluies qui arrivent au moins de mars et puis avril, en fin de saison de pluie ici. C'est beaucoup de pluie et des raisons aussi. C'est un problème de la précarité des matériaux de construction. Il n'y a pas assez. Bon, ça coûte très cher par ici du ciment en Mbujimayi. Et ainsi donc, c'est bruit avec les vagues, mais quand arrivent les eaux de pluie, comme il y en a abondamment maintenant, en fait, il y a eu des maisons et des personnes qui sont sans abri. Peut-être qui attendent d'être soulagées, malheureusement, ça arrive à pas un bon moment.
Merci Charles Mukendi. Marcel Ngoy, un autre sujet, vous le savez, mardi dernier, Bruxelles, la capitale de la Belgique, a été victime de trois attentats terroristes, un dans une station de métro et les deux autres à l'aéroport de Zaventem. Le bilan provisoire est de plus de 30 morts et plus de 200 blessés. Parmi les blessés, on compte d'ailleurs le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC qui est interné dans un hôpital à Bruxelles.
Oui, c'est une situation déplorable à mon sens, parce que le terrorisme qui est combattu semble avoir la peau dure. Mais comment les Européens s'y prennent-ils? Moi, je crois qu'ils développent une chaîne de solidarité. Ils prennent des dispositions en ce sens, sur le plan sécuritaire. Mais malgré ça, les terroristes continuent à faire. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de guerre qu'il y a la paix. La paix doit aussi être préventive dans ce qui arrive ici, plus on traquera les terroristes dans les conditions où ils sont traqués, mieux ils se retrancheront, ils s'organiseront pour continuer à faire. Je crois qu'il faut faire d'une pierre deux coups. D'un côté, l'attaque peut se poursuivre, mais il faut localiser où sont-ils ces gens. Discuter, voir comment jeter un pont pour essayer de vider ce dossier dans sa vraie substance.
Malheureusement, il mène une guerre qui n'est pas conventionnelle.
Il mène une guerre qui n'est pas conventionnelle. Mais est-ce que la politique elle-même, pourquoi les terroristes choisissent-ils l'Europe, qui a toujours été considérée comme le ciel pour certains Congolais? Et pourquoi ils choisissent aujourd'hui, ils investissent l'Europe pour mener de telles attaques? Aujourd'hui, c'est la mort et la désolation à sa 20e. Hier, c'était Paris. Le prochain tour, je ne sais pas c'est où. Donc ça veut dire que quelque part, il y a aussi des problèmes en Europe qu'il faut résoudre. Un problème de politique, un problème de gouvernance, un problème de droit. Et donc, il faut que les Européens qui nous aident ici chez nous, qui donnent beaucoup de leçons, puissent aussi, d'une manière ou d'une autre, et cette fois-ci faire face à ces dossiers-là. Mais j'apprécie quand même le gouvernement, la réaction du gouvernement congolais, qui compatit, qui a envoyé un message au gouvernement belge pour compatir à tous ces malheurs-là.
Joachim Diana, un mot sur cet acte terroriste. On se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, c'était au Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Le Mali en a été également victime. Marcel Ngoï pense que l'Europe doit aussi balayer devant sa case avant de voir les autres.
Ah mais oui, tout à fait. Je me dis souvent, si tels attentats arrivaient à l'aéroport international d'Ntchili ou quelque part à l'arrêt de train, quelque part, pour le gouvernement belge, ça serait l'irresponsabilité du gouvernement en place. Et le gouvernement en place ne sait pas assurer la sécurité de sa population. Mais c'est pour vous dire que les gens, les inciviques, qu'ils s'appellent terroristes, qu'ils s'appellent rebelles ou quoi, ils sont imprévus. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, c'était Paris hier, aujourd'hui Bruxelles, demain ça sera... il n'y a aucun pays qui est épargné. Et j'ai dit, chez nous souvent ici en Afrique, on se dit, nous en fait, nous sommes... Non, au Cameroun. Ils vivent déjà le Boko Haram, c'est le terrorisme. Mais qu'est-ce qui vous empêche, qui empêcherait que demain les terroristes frappent ici? Parce qu'ils vont frapper partout, il y a les activités.
Alors la solution passerait par quoi avant que l'on aborde notre
premier
thème?
C'est la sécurité, c'est vrai. Mais avec les terroristes là, il est difficile de faire la sécurité pour quelqu'un qui est prêt à mourir.
Voilà, on ne pourra terminer ce tour de table sans parler du 45e anniversaire de l'UNPC. Charles Mukendi, un mot, comment se comporte la corporation journalistique à Mbujimayi où vous vous trouvez, juste en un mot?
Il est un peu divisé, fragilisé depuis les dernières élections. Quand le président Sassou Nguesso était par ici, il a laissé des tensions derrière lui à tel point que même les membres qui ont été élus dans la contestation des autres membres, aujourd'hui, en tout cas, l'UNPC Kassai Oriental n'arrive pas à assumer, n'a pas dépassé ces querelles-là. On n'a même pas une commission de discipline. Les élections se sont achevées sur en fait, des contestations comme ça. Et donc, pas, en tout cas, la corporation vient au Kassai Oriental.
Merci. Marcel Ngoï, un mot sur les 45 ans de l'UNPC.
Moi, j'apprécie le courage de Kassou Nguesso Lundé. Parce qu'en fait, depuis qu'il a été placé à la tête de l'UNPC, on sent qu'il y a un souci de recadrer les choses, de réinventer la roue pour que l'UNPC puisse revêtir, avoir de nouvelles marques. La manifestation d'hier illustre à suffisance cette affirmation, en ce sens que on a vu les panélistes en train de faire des interventions sur la viabilisation des entreprises de presse, sur l'amélioration des conditions des journalistes. Je pense que c'est une bonne chose pour multiplier ce type d'initiative.
Joachim Diana, un mot sur les 45 ans de l'UNPC.
Ah oui, mais je m'inspire de cette situation en Bougimayi. C'est une situation que mon journal avait dénoncée à cette époque. Le président Kassou Nguesso Lundé qui doit être un fédérateur, a créé une situation en Bushman, et vous venez de l'entendre, où il est allé installer les pros, les contre, alors que lui devrait se mettre au-dessus de la mer.
Et donc il y a un travail encore à faire au niveau de
mais
la corporation.
Mais tout à fait, surtout en Bushman, il doit rentrer pour remettre de l'ordre,
merci,
pour que ne soit élu à la tête de cette fédération que des journalistes, que même on a gonflé les gens. Vous vous rendez compte que des télévisions en Bushman qui ont 50 journalistes. Quelle télévision ici à Kinshasa? Quelle est la télévision qui a 50 journalistes?
Merci. Et donc, il faut remettre de l'ordre. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Le président de la CENI a déclaré le week-end dernier vouloir introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour obtenir une extension devant lui permettre d'organiser les élections. Corneille Nanga affirme que tenir les élections cette année n'est pas possible sans réviser le fichier électoral. Il s'est confié à la Voix de l'Amérique.
J'avais dit la fois passée aux partenaires. La question, peut-être que vous la poserez, est-il encore possible d'organiser les élections en novembre 2016? J'avais dit oui et non. Oui, la condition pour qu'on organise les élections en 2016 serait que non, les acteurs se mettent d'accord et qu'ils disent, oublions la question du fichier, allons encore aux élections avec les fichiers de 2011. Ça veut dire qu'acceptons d'aller à ces élections sans plus ou moins 10 à 12 millions de jeunes qui ont été la majorité entre-temps. Allons aux élections avec plus ou moins 2 millions de morts dont le nombre doit être sur la liste. Si les acteurs se mettent d'accord sur ça et qu'ils disent que la CENI organise ces élections, nous irons. Dès lors que ça risque d'être un peu difficile, que les acteurs acceptent ces principes, il faut travailler sur les fichiers. En travaillant sur les fichiers, ça va nous demander un peu plus de temps. Est-ce que les élections vont être organisées au-delà de novembre 2016? Oui, en effet, c'est ce que nous allons demander. Nous allons pour cela faire une requête à la Cour constitutionnelle.
Vous allez demander
pour que
un
nous
report.
Ayons une petite extension.
Mais une extension
la, une extension, mais la question n'est pas que cette extension ne devrait pas être éternelle.
Donc début 2017
il faut que cette extension soit limitée dans les temps, en tenant compte des exigences. Cela est arrivé en 2006, ce n'est pas nouveau.
Joachim Diana, vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Cette déclaration du président de la CENI a suscité plusieurs réactions au sein de la classe politique, de la société civile. Comment vous l'analysez?
Ah ben, c'est ce qui m'aurait étonné, c'est qu'il n'y ait pas de réaction. Vous vous souvenez qu'il n'y a jamais eu d'élection sans problème en République démocratique. Les gens semblent dire qu'en 2006, en 2011, c'était sans problème. En 2006, bien que la Constitution dise que la transition est de 24 mois, renouvelable une fois, mais les gens avaient souhaité qu'on la termine dans le premier 24 mois. Dans le premier 24 mois, il était impossible d'organiser les élections.
Techniquement.
Techniquement, c'était impossible. On a dû prolonger la transition de deux autres années, et pendant qu'on a prolongé, il y a eu des gens qui ont marché nus sur le boulevard du 30 juillet pour protester contre cette prolongation. Lorsqu'on arrive en 2011, les problèmes étaient le même. Ngoï Mulunda dit que ce n'est pas possible parce qu'on a perdu tout le temps pour mettre la CENI en place. Il ne lui restait que 8 mois. Dans 8 mois, il sera impossible d'organiser les élections. Les gens ont dit non. Votre rôle, c'est d'organiser les élections et pas de nous poser le problème. Ngoï Mulunda, je me souviens, il a dit aux politiciens, serrez la ceinture, nous allons décoller. Et on a décollé. Ils sont le premier à dire, ah, ce sont les élections chaotiques. Atterrissage en catastrophe. À tel point qu'on a organisé que la présidentielle et la législative qui étaient couplées. Une seule élection.
Et donc, pour vous, le président de la CENI a raison.
Le président de la CENI a totalement raison. Mais je suis étonné que les gens qui refusent ne proposent rien. Les gens ne proposent rien. Il y a un vrai problème. Le vrai problème, le premier problème, c'est que on ne peut pas aller aux élections avec ce fichier. D'autant plus que la loi électorale, ce qui concerne l'élection présidentielle et législative, la loi électorale actuelle autorise aux Congolais de l'étranger de voter. Ou alors on se retrouve pour réviser la loi électorale. Et on doit y insérer le nouveau majeur. C'était d'abord la revendication cardinale de l'opposition. Et bien maintenant on dit, non, on doit aller aux élections, pas question de moindre prolongation. Mais on doit faire quoi? Quelle est la proposition puisqu'on ne peut pas aller avec ce fichier? Nanga dit, ou on va avec ce fichier, ou on prolonge. Les gens ne lui proposent rien.
Marcel Ngoï, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. La proposition, on l'entend pour une partie de l'opposition, c'est qu'il y a moyen d'organiser, avec le temps qui reste, il y a moyen d'organiser la révision du fichier électoral et il y a moyen de tenir les élections dans le délai.
Oui, mais le vrai problème... est que le président Nanga arrive à la tête de la centrale électorale dans des conditions tout à fait particulières. De M. Salave Malumalu qui a démissionné et d'une série de cadres avec lesquels il siégeait d'ailleurs à la tête de cette centrale et qui ont été forcés à la démission. Alors sans qu'on nous dise exactement pourquoi il y a eu ce tsunami au sein même de l'appareil, de l'organe, de l'institution chargée d'organiser les élections. Deuxième aspect des choses, l'argument développé par Nanga aurait pu être valable si il était assorti des propositions concrètes. M. Nanga avance des raisons techniques, mais qui donnent une survie politique aux institutions, et plus particulièrement au mandat présidentiel qui, constitutionnellement, est un mandat contraignant, qui est limité dans le temps. Ça pose un problème d'extension, effectivement, du délai du mandat du président, ce qui devient un problème politique que seuls les politiques peuvent examiner pour trouver une solution. Mais comment résoudre ce problème? Dès lors que Nanga, sans titre ni qualité, parce que les institutions de la République habilitées à saisir directement la Cour constitutionnelle, parmi elles, on ne reconnaît pas à la CENI le pouvoir de pouvoir saisir, de saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter une extension, fût-elle éventuelle, du mandat, au-delà de ce que le délai constitutionnel prévoit. On reconnaît bien sûr, certes, à la CENI, le pouvoir d'organiser les élections. Elle peut exprimer les difficultés techniques qu'elle peut adresser soit au gouvernement, soit au Parlement, parce que la CENI est investie au Parlement, mais elle dépend administrativement du ministère de l'Intérieur. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne voit pas à quel niveau la CENI peut, elle, au-delà de la mission d'organiser les élections, aller négocier un virage à 90 degrés vers une extension de mandat de ceux qui sont au sommet de l'État.
Et donc c'est une annonce dangereuse qui poserait problème.
L'argument paraît spécieux. C'est un argument spécieux. C'est-à-dire quoi? Si on suit le raisonnement qui consisterait à aller vers la révision du fichier, donc on peut dire que la révision peut prendre 16 mois, et comme il y aura toujours des difficultés pour terminer cette révision, il y a bien lieu qu'on aille à plus. Donc, si l'appel d'offres lancé peut prendre autant de mois, le temps qu'on nous livre, qu'on désigne la maison qui doit livrer le matériel, le temps que le matériel vienne et qu'on déploie, et qu'on fasse la révision en question.
On est parti pour la gloire.
Le 16 mois, ça compte à compter du jour qu'on commencera. Mais entre-temps, le temps passe.
Merci.
Et donc, et avec lui, l'État, c'est le mauvais allié dans l'affaire.
Merci.
Donc, on ne peut pas voir, on a eu 5 ans pour organiser les élections. Donc, on ne peut pas, en dernière minute, dire qu'on n'a pas assez de temps. On a eu le temps.
Merci.
Donc, il y a un problème réel de volonté politique.
Merci.
Et s'il faut le suivre, donc, on aura à attendre, on aura des difficultés techniques pour terminer la révision. Et la révision va nous ouvrir la voie à beaucoup d'autres choses.
Ouais. Merci. Charles Mukendi, directeur des programmes de Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée qui émet à Mbujimayi, au Kasai-Oriental. Une partie de l'opposition ou certains acteurs politiques de l'opposition pensent que cette annonce de la CENI est une tentative de cautionner, d'organiser le glissement en voulant saisir la Cour constitutionnelle. Quel est votre point de vue?
Eh bien, le contexte dans lequel intervient c'est une proposition de la CENI, c'est ça qui est suspect. En tout cas, la demande ne tombe pas bien. Et quand on sait qu'il y a une autre contrainte vis-à-vis de laquelle le président de la CENI ne semble pas tenir compte, c'est la contrainte de délai, du mandat du président de la République. Pourquoi il ne peut pas dire avec cette contrainte aussi, faisons tout? Pourquoi il n'amène pas les réflexions dans le sens de dire qu'est-ce que nous devons faire pour avoir ces élections dans le peu de temps qui nous reste? Qu'est-ce qui nous faisable pour qu'on tienne compte de cela? Parce que, après tout, c'est la première fois que la République va avoir quand même une alternance pacifique et que nous pouvons avoir cette chance-là d'avoir un président.
Charles Mukendi? Voilà, nous venons de perdre Charles Mukendi. Marcel Ngoï, le président de la CENI, n'est pas un magicien. Il dit que techniquement, les choses sont difficiles à réaliser. Est-ce qu'il n'a pas raison dans une certaine mesure et que la classe politique n'a-t-elle pas, ne devrait-elle pas tirer les conséquences de ce constat?
Oui, le président de la CENI pose des problèmes techniques.
Qui sont réels.
qui sont réels. Le président de la République a dénommé ces problèmes techniques, il les a appelés dans son discours comme étant les difficultés. Donc vous vous souvenez qu'au mois de décembre, au mois de novembre, le 28, le président de la République a parlé. Il a parlé le 14 décembre, il a parlé le 31 décembre 2015. Donc en l'espace d'environ un mois et quelques jours, le président a parlé trois fois. Et le président appelle ça difficulté. La CENI, dans sa formule de Malumalu couplée à Nanga, a appelé ça contrainte. Mais le même Malumalu, il y a quelques temps, il avait appelé ça préalable.
Alors, quelle est la voie de sortie
dans ces
tumultes
C'est préalable, contrainte ou difficulté, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ça existe, c'est vieux comme le monde. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas pris des dispositions à temps. Et aujourd'hui, il y a un gap, il y a une impasse qui préoccupe. Mais ces préoccupations pourraient permettre à ceux qui sont en place, d'une manière ou d'une autre, de tirer l'avantage de rester là. Et donc, on ne voit pas que le président de la République, je vais terminer, il n'y a pas que le président de la République, il y a aussi toutes les autres institutions qui tirent bénéfice de ça. Les députés.
Alors, quelle est la voie de sortie, Marcel Ndoye?
La voie de sortie, elle est difficile à imaginer maintenant. Parce que j'ai l'impression de penser que nous sommes comme dans une douleur d'enfantement. Pour une femme qui est enceinte, qui est là, on ne sait pas. Est-ce que
qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que c'est un mort-né? Est-ce que c'est.
Diana. Alors, Diana, pour vous, quelle est la voie de sortie? Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a dit devant le Conseil de sécurité que le processus électoral en RDC était dans l'impasse. Quelle est la voie de sortie?
Oui, j'ai dit la voie de sortie, c'est la bonne foi des acteurs politiques. Que les gens cessent de mentir. Vous vous souviendrez que Malumalu s'y est pris à temps. En proposant trois schémas. Il a dit, si nous allons avec tel schéma, nous respectons les délais contre tel autre. Les gens ont dit, vous n'avez pas les droits de nous proposer des schémas. Allez-y, organisez-nous les élections. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé, on lui a dit, faites-nous un calendrier global. Malumalu a proposé un calendrier global. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, ce calendrier global est trop serré et puis ce calendrier n'est pas consensuel. Bon. Qu'est-ce qu'il faut pour faire le consensus? Faut-il que la colombe descende comme l'Esprit Saint sur chaque membre de la classe politique pour qu'il y ait consensus? Non, on a dit dialogue. Trouvons-nous autour du dialogue pour trouver le consensus autour du calendrier. Les gens ont dit non au dialogue. En un moment, on a dit pour le fichier électoral, pour que le fichier soit, faisons le recensement. On a dit non au recensement. On ne doit pas dire qu'on ne s'y est pas pris à temps. Mais il y a une constance. Non, 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 non. Les gens disent non sans rien proposer. Nous sommes devant un fait aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas tenir les élections dans le délai. Même si on disait aujourd'hui, abandonnons toutes les élections locales et consorts, allons-y avec la présidence, il faut convoquer le corps électoral 90 jours avant.
En d'autres termes, à la tête de la CENI, Corneille Nanga ou pas, les réalités restent les mêmes.
Ça sera l'homme seul. Il faut des électeurs. Ce sont ces électeurs-là qu'on va convoquer, mais on n'en a pas encore. La loi électorale demande qu'il y ait des Congolais de l'étranger, qu'il y ait des nouveaux majeurs. On ne les a pas encore. Pour les avoir, on a commencé à peine à lancer les offres, et ainsi de suite. Ce sont des réalités qui sont là. Alors moi, je pense que la démarche... On dit que la CENI n'a pas le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Non, mais on doit... Il y a ce qu'on appelle aussi jurisprudence. Pour que nous ayons le commissaire spécial, qui avait saisi la Cour constitutionnelle, c'est la même CENI. Puisque la CENI a saisi pour l'organisation des élections.
Mais ça continue à rester un débat.
Mais ça crée jurisprudence.
Un débat juridique
non,
important.
Ces gens-là ont été aussi. Nommés. Les mesures spéciaux sorties de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ont été mises en application. Et c'est que la Cour constitutionnelle n'avait pas débouté la CENI pour dire « tu n'as pas le droit ». C'est elle seule qui peut dire qui est autorisé, qui n'est pas autorisé, qu'est-ce qui est constitutionnel, qu'est-ce qui n'est pas. C'est la Cour constitutionnelle. Et celle-là, elle a accepté la CENI. Ça fait jurisprudence. Elle l'acceptera encore une fois. Elle l'acceptera encore demain.
Alors, où est la place du dialogue dans tout ça?
Mais le dialogue, c'est là où la classe politique va se dire, nous, classe politique, nous prenons la résolution de faire les élections avec le fichier de 2011, où nous nous accordons au petit temps, mais merci. Comment nous allons nous organiser pour que dans ce petit temps, personne ne soit préjudicié?
Merci. Charles Mukendi, est-ce que vous nous suivez? Vous êtes en ligne?
Oui, je vous suis, je vous écoute.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que la démarche, l'annonce du président de la CENI était suspecte, et maintenant là, Joachim Diana pense qu'il faudrait mettre en jeu la bonne foi des acteurs politiques pour décanter la situation. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, comme d'autres observateurs, qu'il va se poser un sérieux problème autour de l'interprétation des dispositions constitutionnelles et tout?
Oui, et il y a tout cela parce que on est dans un contexte où tout le monde soupçonne tout le monde. Si, par exemple, du côté de la majorité, ce qui était mon vœu, si, par exemple, le président de la République réunit aujourd'hui sa majorité autour de lui et qu'il disait que le troisième mandat, c'est une miette, il ne sera pas candidat, et qu'il met, on dit qu'on a choisi un dauphin, le successeur pour la majorité, les candidats, c'est elle. Vous verrez que tout ceci va s'arrêter et on va faire mutuellement confiance. D'ailleurs, très rapidement, je crois, pour ma part, on peut même aller au temps même avant cette date-là. Parce que toute cette crispation, c'est autour de cette question-là, les troisième mandats. Et soupçons qu'on a tout autour des uns et des autres. Si jamais le président de la République acceptait de montrer aujourd'hui à la classe politique, par exemple, et c'est de bonne foi, il dit, voici, en fait, pour nous, de la majorité, notre candidat pour l'élection de 2016, si on a cette garantie-là, moi je crois pour ma part que tirer pour le mieux. Tant qu'il n'y a pas cette garantie-là, il n'y a pas, en tout cas, en tant qu'il risque d'y avoir peut-être pire.
Nous allons aborder notre deuxième thème tout à l'heure, Charles Mukendi, mais pour terminer par vous sur ce thème, le dialogue figure parmi les solutions proposées, mais certains acteurs politiques pensent que ce n'est pas une panacée.
Il existe et il faut dialoguer et quand il n'y a pas de principes établis. On dialogue lorsque on n'a pas de principes. Quand on sait qu'il y a une loi, par exemple, qui sanctionne tel comportement, on ne peut pas dialoguer dessus. On dialogue que quand on manque des repères. Quand il y a des repères clairs, il y a la constitution, il y a tout cela. Pour ce qu'on doit faire, on ne doit pas y regarder. Ça fait bien maintenant plus de 6 mois qu'on parle de dialogue et personne ne le convoque et personne n'est là pour le faire. Et on risque de tourner en rond comme ça jusqu'à la fin. Le dialogue, c'est bon. Il faut toujours dialoguer dans une société. Mais quand il n'y a pas de principes, lorsqu'on a des normes établies, je crois qu'il n'y a pas de place pour le dialogue à ce moment-là.
Merci Charles Mukendi, Marcel Ngoyi. Et une très brève réaction.
Donc, c'est depuis le 28 novembre que le président de la République a parlé du dialogue et l'a convoqué dans une ordonnance publiée le 30 novembre. Et depuis, vous pouvez compter avec moi, il ne faut pas être grand mathématicien pour compter le nombre de jours. Depuis décembre, janvier, février, nous sommes au mois de mars finissant. Les dialogues ne commencent toujours pas. Le processus même du dialogue, on peut dialoguer même pendant 2-3 ans. Un peu comme à l'époque de la conférence de la soirée souveraine. Donc le vrai problème est dans l'absence de volonté politique. Souvenez-vous qu'il y avait autrefois le schéma de la révision constitutionnelle qui avait échoué, des livres tels que des grands livres de Beauchamp et tant d'autres avaient été publiés. Il y a eu l'ONIP avec le recensement. Il y a eu aujourd'hui des processus de calendrier. Aujourd'hui, on n'a plus de calendrier.
Merci. Donc, pour vous, c'est la volonté politique. Merci. Nous abordons notre deuxième thème de ce soir. Jean-Pierre Bemba est reconnu coupable en tant que chef militaire de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par des rebelles du MLC en Centrafrique en 2002 et 2003. C'est le verdict rendu lundi dernier dans l'affaire qu'il oppose au procureur de la CPI. Suivant les explications du chargé de sensibilisation au bureau extérieur de la CPI à Kinshasa, Patrick Tchiboui est joint par Jeff Ngoy.
Monsieur Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable en tant que chef militaire et cela au-delà de tout doute raisonnable par le juge de la chambre de première instance 3. Il faut retenir également qu'aujourd'hui a été prononcée cette décision de culpabilité. Quant à savoir la peine qui sera appliquée à Monsieur Jean-Pierre Bemba, la chambre de première instance va décider de la procédure qui sera suivie pour fixer la peine. En fait, il faut savoir que le statut de Rome prévoit cette possibilité pour la cour ou pour les juges de pouvoir prononcer la peine après avoir rendu un verdict de culpabilité, prononcer la peine justement après avoir reçu, entendu les parties et les représentants légaux des victimes. Les juges peuvent prononcer la peine par la suite.
Dans combien de temps la peine pourra être prononcée?
Donc je ne peux pas vous déterminer à ce stade ici quand est-ce que la peine sera prononcée.
Et à ce stade, on ne peut pas non plus parler de la condamnation.
On ne peut pas parler de condamnation dans la mesure où la peine n'a pas encore été prononcée.
Voilà, Charles Mukendi, vous êtes directeur des programmes de Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée émettant en Bujimaï au Kasaï Oriental. Il nous reste moins de 10 minutes pour ce deuxième thème. Comment vous avez reçu, vous avez accueilli ce verdict du procès Bemba?
Ah bien, avec un tout petit peu de soulagement, parce que il me semble, à mon avis, que ceux qui se prenaient pour de plus forts sont rattrapés par leurs actes. Et même par la fragilité, de notre justice, dans les pays africains, la justice ne fonctionne pas toujours très bien. Et si ça peut servir d'exemple à d'autres seigneurs de guerre, comme il y en a toujours dans nos pays africains, peut-être aussi en Europe, mais il faudrait que des gens soient forcés. La fin de l'impunité, c'est une bonne chose, bien que ça fait très mal, avoir tout le temps que ce procès a pris. Et maintenant, l'homme a duré, et Jean-Pierre Bemba a été transféré, je crois, ma foi, ça va faire presque 10 ans, mais on connaît maintenant qu'il va être condamné. C'est un peu de soulagement pour ma part, parce que je considère que nous faisons de rattraper quelqu'un. Et tout le monde en vivant pense cela, je crois même en politique, même dans d'autres, chaque jour, nous pouvons être quand même rationnel pour ne pas exagérer.
Merci Charles Mukendi. Joachim Diana Gikupa, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Ce verdict devrait servir d'exemple à d'autres seigneurs des guerres, dit Charles Mukendi. Mais certains partisans de Jean-Pierre Bemba ont crié à la politisation de ce procès.
Vous savez, pour les uns et les autres, en ce qui concerne l'exemple, moi je pense qu'on ne doit pas donner les exemples sur le malheur des uns. S'il y a un exemple, et il faut que le procès soit réellement équitable et que réellement la personne qu'on punit pour donner l'exemple soit réellement coupable. Et en ce qui concerne moi, ce que je sais, c'est le deux poids, deux mesures qu'on constate dans la justice internationale, ou dans le jugement international. Jean-Pierre Bemba est jugé comme chef, condamné comme chef militaire, dont les acteurs ont posé. Mais combien de cas nous vivons maintenant? Mais lorsque les militaires américains tuent en Irak et connaissent ce déboire-là, on dit que ce sont ces militaires-là qui sont individuellement responsables. On dit peut-être parce que leur justice, mais il y en a de justice. Quand vous avez tout ce qui se passe en Israël contre la Palestine, quel est le chef de l'armée qui a déjà été jugé en Israël et on a déjà puni qui? Alors que ce sont des véritables crimes qui se déroulent. Là, sur ce point-là, moi j'estime que les gens doivent être honnêtes au lieu de chercher à donner l'exemple. On a dit par exemple que Jean-Pierre Bemba, si on les libérait, ça risquait d'être un problème pour la CPI, sa crédibilité. Elle ne doit pas jouer sa crédibilité sur le malheur de quelqu'un. Mais là aussi, je me disais que la situation de Jean-Pierre dépend aussi de ses avocats. Il avait été dit clairement que Jean-Pierre Bemba n'avait jamais mis pied en Centrafrique. Ses troupes étaient à la disposition du gouvernement Centrafrique. Mais dernièrement, et j'ai entendu M. Kilolo, Maître Kilolo, dire que il a été même mentionné dans la décision, dans l'arrêt, que Jean-Pierre Bemba était même parti à Centrafrique pour demander à ces gens de bien se comporter. Mais vous voyez ce qui peut faire qu'on dit une chose et sans contraire, s'il est allé leur demander à bien se comporter, qu'ils ne se sont pas bien comportés. Voilà, ce qui donne la raison qu'on puisse les condamner. Donc je ne vois pas pourquoi Maître Kilolo doit avoir défendu une ligne jusqu'à la fin et qu'en dernier moment qu'il nous démontre que Jean-Pierre Bemba était parti en Centrafrique pour aller demander à ses troupes de ne pas commettre des exactions. Moi je pense que sur ce point-là, au lieu d'aller voir la politisation à gauche, c'est Jean-Pierre Bemba qui peut politiser, il faut que les avocats soient compétents et cohérents.
Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Joachim Diana dénonce deux poids deux mesures dans la justice internationale. Par là, il faudrait donner raison à l'Union africaine qui s'en méfie un peu.
Lorsque Diana parlait de deux poids deux mesures, je pensais que il allait arriver jusqu'au bout de son raisonnement. C'est-à-dire qu'il a posé les bases, les prémices qui établissent justement un traitement assez assez
inéquitable
des affaires dans le monde. C'est-à-dire que cette justice internationale s'applique plus aux Africains qu'aux citoyens d'autres continents. Donc, un peu comme ça, parce que c'est ce qu'on constate. Deuxième élément qu'il fallait, que je voudrais ajouter au propos de Diana, c'est que si Jean-Pierre Bemba avait dépêché ses troupes en République centrafricaine, à Bangui, c'était à la demande d'un gouvernement qui était dirigé par Ange-Félix Patassé, qui fut un président élu. C'est à sa requête, sur sa demande, que le responsable numéro 1 du MLC à l'époque avait dépêché ses troupes. Et donc, ces troupes étaient à la disposition de l'armée centrafricaine. Donc, qu'on n'inquiète pas cette armée, qu'on puisse laisser Ange-Félix Patassé vivre tranquillement, jusque même à sa mort, paix à son âme, et qu'on puisse laisser toutes les autres autorités centrafricaines qui avaient collaboré d'une manière ou d'une autre, qui avaient accueilli les troupes de Bemba, que ces gens vivent tranquillement. Cela inquiète. Donc je pense qu'à ce niveau-là, s'il fallait aller jusqu'au bout, la justice internationale devrait s'intéresser aussi à toutes les autorités centrafricaines qui avaient demandé l'intervention de Jean-Pierre Bemba. Mais là, les autorités sont tranquilles. Au contraire, il y a eu développement de la situation, il y a même des gens qui ont été félicités, appuyés, et tout ça. Donc, je pense que la justice internationale a quelque chose aussi à rectifier. Cette justice internationale doit se regarder comme dans un verre réverbère pour corriger certaines choses dans sa pratique, dans sa façon de faire.
Alors Marcel Ngoï, il nous reste au moins de 3 minutes. Une conclusion par rapport aux deux thèmes qu'on a abordés ce soir, très rapidement.
Ma conclusion revient sur la situation politique. Jusqu'ici, nous ne sommes pas encore dans une crise institutionnelle prononcée. Nous ne sommes pas encore dans une crise constitutionnelle parce que la constitution existe. Mais il y a des bases qui sont en train d'être posées qui plantent progressivement les décors d'une crise politique aux conséquences multiples. Et pourtant, cette crise peut être évitée. Il suffit qu'un homme qui s'appelle Joseph Kabila, qui est aujourd'hui l'incarnation de tous les pouvoirs, parce que en tant que président de la République, c'est une institution. En tant que président de la République, c'est lui qui a le contrôle de la majorité au Parlement. En tant que président de la République, c'est lui qui dirige le gouvernement.
Alors qu'il fasse quoi?
Et donc, il peut, lui, n'est-ce pas, décider d'alléger, de décrisper cette situation politique.
En déclarant qu'il ne se représentera plus.
Par exemple.
Voilà. Charles Mukindi, votre conclusion également par rapport aux deux thèmes qu'on a abordés ce soir.
Je parlerai des élections au niveau local, des élections de gouverneurs. On a l'impression, avec ce que nous vivons aujourd'hui, et qu'on est de cette décentralisation de
Voilà.
Il ne suffit pas de voter pour qu'il y ait une démocratie, mais encore faudrait-il que pendant ce vote-là, que cela suscite un débat pour permettre aux jeunes de voir leur avenir et de discuter de l'avenir.
Merci Charles. Malheureusement, la qualité de votre ligne se détériore, Joachim dit à la conclusion.
Ah oui. Vraiment.
Quel soupir.
Je dis ceci. Tout ce qui arrive se surbase de suspicion de procès d'intention. Je n'ai jamais entendu nulle part dans la Constitution qu'un livre peut réviser la Constitution. Jamais. Aujourd'hui, Matata vient d'écrire un livre sur l'émergence et c'est une raison pour que nous entrions dans l'émergence. Et comment un livre sur la révision de la Constitution peut détenir une façon de réviser la Constitution? Il y a des mécanismes constitutionnels pour réviser la Constitution. Il y a des gens qui ont l'initiative de changer la Constitution. En ce qui concerne ce déclaré.
Et c'est par là que vous terminez.
Oui, mais quel est l'article de la Constitution qui demande à un président de la République de se déclarer? C'est comme si sa parole était au-dessus de la Constitution. La Constitution a déjà parlé.
Merci.
Tenez-vous à la Constitution que vous tenez respectée, que voilà,
ce mandat se finit. Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse est terminée pour ce soir. Réalisation, Kéline Kouté. Mise en onde, Jean-Noël Mokondo. Supervision, Julien Nyamouini. Présentation et coordination, Alain Hirung Mouchinj. Bon week-end à vous tous.